Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. Créée en 2015, la Cour pénale spéciale est depuis lundi opérationnelle à Bangui. Formée de juges nationaux et internationaux, la CPS a 5 ans pour mener à bien sa mission. Est-ce la fin de l'impunité pour les auteurs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Centrafrique depuis 2003? Est-ce un premier pas vers un retour à la paix alors que 80% du pays sont encore aux mains des groupes armés? Donnez-nous votre avis, appelez-nous au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. Facebook lance sa War Room. Olsen, vous êtes en ligne de Brazzaville, bonjour.
Bonjour Chantal, bonjour à tous.
Vous avez eu envie de savoir ce que cachait cette appellation quelque peu guerrière. Marie Normand du service international de RFI est à mes côtés, prête à vous répondre. Bonjour Marie.
Bonjour Chantal et bonjour Olsen.
Olsen, on vous écoute.
Ok. Facebook a dévoilé sa War Room, une sorte de salle de crise pour lutter en temps réel contre d'éventuelles manipulations en période électorale. Comment cette War Room va-t-elle fonctionner ?
Marie Normand.
Alors, la promesse de Facebook, déjà, c'est de déjouer les tentatives de manipulation des scrutins sur Facebook, hein, via Facebook, au moment où elles se produisent. Alors, comment faire concrètement? Le groupe veut d'abord détecter, grâce à un procédé informatique, un algorithme, l'arrivée massive, soudaine, de messages qui pourraient tromper les électeurs à l'approche du scrutin. Ce que dit Facebook, c'est que quand une anomalie sera détectée, eh bien, cette fois, un humain va prendre le relais et va enquêter pour savoir s'il s'agit vraiment d'une menace, d'une information trompeuse, d'un discours de haine, par exemple. Alors voilà pour la théorie. On ne sait pas vraiment, en fait, hein, Olsen, combien de personnes vont travailler dans cette cellule de crise, ni l'étendue de ces tâches. On sait qu'il va y avoir des ingénieurs, des analystes, des experts en sécurité, des juristes aussi. Et Facebook soutient que, eh bien, c'est très intéressant, plus efficace de mettre toutes ces personnes dans une même pièce.
Marie, on dirait bien que cela ressemble aussi à une opération de communication pour Facebook.
Oui, parce que Facebook a été très critiqué, on le sait, pour sa gestion de la désinformation, surtout après la présidentielle américaine de 2016. On sait que la plateforme a été envahie de fake news, surtout à la toute fin de la campagne, et que Facebook a été utilisé, entre autres, par un organisme de propagande russe. Alors, c'est pas bon pour l'image de Facebook et on sent que le groupe dégaine en ce moment tout un ensemble de mesures à 15 jours tout juste des midterms. Et l'idée, c'est de dire tout va bien. Cette fois, on a repris le contrôle avec, vous l'avez vu, cette rhétorique guerrière. On parle de centre de commandement, de prise de décision en temps réel, de salle de crise, hein, vous l'avez dit, Olsen. Donc, pour l'instant, ce que montrent les photos de cette War Room, c'est une simple salle de conférence sans fenêtre, située donc au siège de Facebook en Californie, avec des drapeaux américains et brésiliens sur les murs, des horloges réglées sur différents fuseaux horaires. On voit des écrans aussi branchés sur plusieurs chaînes de télé américaines et puis surtout des gens très très concentrés devant leurs ordinateurs.
Alors Marie, vous parliez de drapeaux brésiliens. Olsen, vous avez une autre question justement à poser.
Effectivement, les premiers essais ont eu lieu au Brésil pour les présidentielles. Quels sont les résultats de ces premiers tests ?
Alors, là encore, on ne sait pas grand-chose de ce qu'a fait exactement cette cellule de crise pendant le premier tour au Brésil. Facebook nous dit simplement avoir repéré le début d'une rumeur sur le changement de date de l'élection et l'avoir supprimée avant que l'information ne devienne virale sur le réseau, supprimée en seulement une heure ou deux, ce qui aurait été beaucoup plus long, selon Facebook, sans cette salle de crise. Alors, à côté de ça, on sait que Facebook tente toujours de supprimer les faux comptes qui permettent de relayer ces infos. Et hier encore, Facebook a communiqué, il dit avoir effacé 68 pages, 43 comptes associés à la même société de marketing au Brésil.
Marie, quelles pourraient être les conséquences concrètes sur les midterms, les élections de mi-mandat aux États-Unis ?
Alors Facebook dit vouloir agir de la même manière, hein, suppression de milliers de faux comptes qui existent et qui permettent de relayer ces infos, détection des partages massifs de fausses infos, mais concrètement on sait que même si Facebook essaye de faire le ménage, il y a toujours beaucoup de désinformations sur le réseau, il y a aussi des ratés, parfois la presse américaine raconte que des publicités qui n'ont rien à voir avec des contenus politiques, comme cette publicité par exemple sur le dépistage du cancer de la prostate, ont été supprimés par erreur. Et puis là, on parle de Facebook, mais si vous vous souvenez, Olsen, lors du premier tour de la présidentielle au Brésil, c'est surtout la messagerie WhatsApp qui a été utilisée pour véhiculer de fausses informations, avec, selon les médias locaux d'ailleurs, la complicité, là encore, d'entreprises brésiliennes. WhatsApp qui fait aussi partie du groupe Facebook, mais qui n'est pas concerné par cette cellule de crise.
Merci Marie-Normand pour ces explications. Olsen, j'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Brazzaville. Les Afghans vont devoir patienter plusieurs semaines pour connaître leur nouveau parlement. Ils sont allés voter le week-end dernier en bravant les menaces des talibans, des législatives qui se sont déroulées dans un climat de violence meurtrière. David, bonjour.
Bonjour Chantal Loro, bonjour à toutes et à tous.
Vous nous appelez vous aussi de Brazzaville et pour répondre à vos questions,
oui, de Brazzaville, oui.
Sonia Ghezali est en ligne avec nous de Kaboul. Bonjour Sonia.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante de RFI dans la capitale afghane. David, on attend votre première question pour Sonia.
Oui Chantal, ces élections devaient avoir lieu en 2015, mais ont été reportées à maintes reprises. Mais pourquoi ces reports ?
Sonia Ghezali, pourquoi est-ce qu'on a repoussé à plusieurs reprises donc ces législatives ?
Ben écoutez, en fait, il a fallu 3 ans pour que le Parlement parvienne à voter une réforme qui permette d'organiser un scrutin. Donc c'est le temps qu'a pris ce Parlement pour voter une nouvelle réforme électorale. Et celle-ci concerne notamment la commission électorale indépendante qui a été accusée de partialité lors du scrutin présidentiel de 2014. Certains de ses plus importants responsables étaient impliqués dans des cas de bourrage d'urne. Et c'est d'ailleurs à cette époque qu'est née l'expression « élection mouton ». Un haut responsable de la commission électorale avait dit au cours d'une conversation téléphonique qui avait été enregistrée par les services de renseignement, qui avait été diffusée par les médias, amener les moutons sur la montagne et engraisser-les avant de les faire redescendre. Les moutons, vous l'avez compris, eh bien, c'était les urnes. Les engraisser signifiait les bourrer. Nous ne voulons pas de moutons obèses, m'ont dit certains électeurs au cours de ce scrutin. Et ces 3 années de retard, eh bien, elles ont été prises pour voter une loi électorale pour lutter contre les fraudes. Mais faute d'unité politique, eh bien, cela a pris du temps et donc 3 années de retard.
David, vous avez une autre question pour Sonia Ghezali ?
Oui, la deuxième question est la suivante. Le président afghan considère que ces élections sont légitimes alors que l'AFP recense au moins 300 victimes. Comment expliquer ces incohérences ?
Sonia.
Écoutez, oui, le président Ashraf Ghani parle de succès parce qu'il y a eu, selon les estimations de la commission électorale indépendante, 4 millions de personnes qui sont allées voter en cours du week-end sur les 9 millions qui s'étaient inscrites sur les listes électorales. Il faut rappeler que ce scrutin s'est tenu dans un contexte de terreur puisque les talibans avaient prévenu qu'ils allaient s'attaquer au bureau de vote, qu'ils allaient s'attaquer aux forces de sécurité afghanes et donc ils ont intimé à la population de ne pas aller voter. Donc des millions de personnes qui ont défié d'une certaine façon les talibans en allant voter, en participant au processus démocratique, alors que les talibans, eux, ne reconnaissent pas la légitimité du gouvernement afghan. Donc celui-ci est très critiqué par la population à cause de la corruption endémique, une corruption qui est un fléau au sein même du Parlement. Donc cette mobilisation des électeurs a d'une certaine façon rassuré, conforté le président afghan, on peut le comprendre. Mais cependant, ça c'est l'opinion officielle, celle qui est défendue par les autorités afghanes. Et certains dénoncent une propagande, puisque des observateurs pointent du doigt les bureaux de vote qui n'ont pas pu ouvrir. Si vous avez suivi, vous avez vu que 1000 bureaux de vote sont restés fermés le premier jour du scrutin. Il y a eu plus de 192 incidents, dont des attaques meurtrières. Le système biométrique a été défaillant dans plusieurs bureaux. Et il faut rappeler que le scrutin ne s'est pas tenu sur tout le territoire en Afghanistan, puisque les autorités afghanes ne contrôlent qu'à peu près 50% du territoire en Afghanistan.
Merci beaucoup Sonia pour ces précisions d'avis. Continuez à nous écouter à Brazza. On en parlait hier dans Appel sur l'actualité. Paul Biya, 85 ans, dont 36 au pouvoir, a été réélu sans surprise président du Cameroun. Son score, 71,28% des voix contre 14,23% à l'opposant Maurice Kamto, qui dénonce de faux chiffres et revendique la victoire. C'est le sujet qui vous a intéressé. Seydou, bonjour.
Oui, bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Paris. Karine Franck du service Afrique de RFI m'a rejointe dans ce studio. Bonjour Karine.
Oui, bonjour Chantal, bonjour à tous.
Karine, vous avez couvert pour nous cette présidentielle camerounaise et vous êtes prête à répondre aux questions de Seydou. Seydou, c'est à vous.
Ouais, bonjour Karine.
Oui, bonjour Seydou.
Ouais, parlant des élections au Cameroun, M. Kamto Maurice est apparu comme son principal opposant. À se renaître un nouveau engouement pour la politique auprès de la population camerounaise. Ma question est la suivante. Comment expliquer son ascension?
Alors, Karine,
en deuxième volet, parce que ça va de pair, y aurait-il un recours que M. Kamto pourrait utiliser pour contester les résultats?
Alors Karine, on peut parler d'ascension du candidat du MRC ou pas?
Oui, quelles que soient les contestations et ce qui va se passer dans les jours à venir au Cameroun, on peut affirmer que Maurice Kamto s'est révélé pendant cette campagne électorale. Son ascension, il la doit d'abord à sa stature d'homme d'État, éminent professeur de droit. Il a été ministre délégué à la justice de 2004 à 2011. Il est connu pour avoir négocié avec succès pour son pays le contentieux territorial avec le Nigeria sur la péninsule de Bakassi. Sa stature d'homme d'État, donc, et aussi sa détermination, son intelligence personnelle. Cette élection, il a pris le temps de la préparer depuis 2012, quand il s'est lancé avec le MRC. Il a travaillé son programme, recherché des financements. Pendant la campagne officielle aussi, il a parcouru le pays tout entier, multiplié des meetings. En 2012, on ne l'avait pas vraiment pris au sérieux. Aujourd'hui, c'est lui qui bouscule le pouvoir. Cela faisait plus de 20 ans qu'on n'avait pas vu ça chez nous, reconnaît un observateur de la vie politique. Maurice Kamto a également bénéficié d'un concours de circonstances. Le fait que l'avocat Akere Muna ait décidé de se désister en sa faveur lui a permis d'engranger encore quelques voix supplémentaires et d'emporter le vote utile.
Alors il rejette les résultats, se déclare vainqueur. Quel recours peut-il introduire? C'est ce que voulait savoir Seydou.
Alors théoriquement, aucun au Cameroun, puisque le Conseil constitutionnel a déjà vidé le contentieux et rejeté ses requêtes. Alors maintenant, selon Albert Nzongan, le conseiller stratégique du candidat, un recours devant la Cour africaine des droits de l'homme pourrait être introduit. Juridiquement, c'est possible. Nous allons défendre notre victoire, explique le conseiller. Il est possible que nous appelions à des marches pacifiques. Tout sauf la casse, précise cependant Albert Nzongan. Mais Maurice Kamto ne s'est pas encore prononcé officiellement sur ce qu'il compte faire. Va-t-il engager un bras de fer dans la rue ou bien va-t-il se concentrer maintenant sur les prochaines élections, les municipales et les législatives de l'an prochain pour asseoir sa position? C'est l'inconnu du moment.
C'est d'où est-ce que vous avez une autre question pour Karine Franck?
Oui, Karine, j'ai une dernière question. Comment expliquer la déroute du SDF, considéré pendant longtemps comme principal parti d'opposition au Cameroun?
Karine.
Alors, le terme de déroute n'est pas trop fort. Hein. C'est d'ailleurs aux dépens du SDF que Maurice Kamto grandit. On l'a vu notamment dans une ville comme Douala. Les fiefs du SDF sont tombés dans l'escarcelle de Maurice Kamto. Alors, c'est vrai que le SDF était le principal parti d'opposition. Hein. Il compte 18 députés, 7 sénateurs. Il contrôle 22 municipalités à 100%, plus une quinzaine en partage. Il y a plus ou moins 900 conseillers municipaux SDF au Cameroun. Et tout le monde a en tête, bien sûr, dans le pays, les années de braise au début des années 90, quand John Frundi réclamait sa victoire lors de la première élection multipartite.
Alors justement, comment expliquer un si faible score?
Les années ont passé. En 2004 et 2011, John Frundi était candidat, mais il n'avait plus sa fougue d'antan. D'une certaine manière, on peut dire que dans l'esprit de nombreux Camerounais, le SDF est considéré, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, comme comptable au même titre que le parti au pouvoir de la situation actuelle du pays. Et beaucoup ont reproché à John Frundi de ne plus se battre vraiment pour la conquête du pouvoir, mais seulement pour conforter sa place de leader de l'opposition. Cette année, John Frundi a passé le relais à Joshua aussi, mais le parti s'est divisé pendant le congrès, et Joshua aussi, qui n'a peut-être pas le charisme non plus de John Frundi. John Frundi, c'était vraiment le tribun, le combattant. Joshua aussi paraissait parfois un peu seul pendant la campagne. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'en raison de la crise anglophone, le SDF n'a pas pu faire le plein des voix dans ses fiefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au niveau national, Joshua aussi n'est crédité que de 3,35% des voix. Le SDF a maintenant travaillé en vue des législatives de l'an prochain. C'est un parti qui reste un parti structuré. Il n'a peut-être pas dit son dernier mot, mais c'est sûr qu'il a maintenant face à lui le MRC, un concurrent très sérieux, sans oublier non plus la performance de Cabral Libi, qui va lui aussi travailler avec le parti Univers à mieux s'implanter dans le pays.
Merci beaucoup Karine Seydou. Bonne journée à Paris. On va terminer cette première partie d'appel sur l'actualité avec la joie des amateurs de football à Madagascar. Les Baréas ont gagné leur ticket pour le Cameroun, le pays organisateur de la CAN 2019, en battant la Guinée équatoriale par 1-0. Souleymane, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Bandoulou. À mes côtés, pour répondre à vos questions, Martin Guez du service des sports de RFI. Bonjour Martin.
Bonjour Chantal, bonjour Souleymane.
Souleymane, on vous écoute.
Bonjour Martin. Donc, le Madagascar vient de se qualifier pour la première fois de son histoire à la CAN 2019. Du coup, comment expliquer la qualification d'une sélection longtemps effacée dans le monde du football?
Alors Martin, à quoi doit-on ce renouveau de l'équipe nationale malgache?
Bien, comme l'a dit Souleymane, c'est vraiment historique puisque le Madagascar revient de très loin. Ils étaient seulement 187e au classement FIFA il y a 5 ans. Aujourd'hui, ils sont 106e et ils le doivent particulièrement à l'arrivée d'un homme qui s'appelle Nicolas Dupuis. Il a 50 ans, c'est le sélectionneur de cette équipe depuis 2 ans. Et il leur a permis, dans un très long processus, de se qualifier pour cette CAN 2019 puisqu'ils ont d'abord dû passer par un tour préliminaire. Ils ont dû battre Sao Tomé et Principe. Puis ensuite, ils ont été reversés dans le tour principal de qualification. Ils se sont retrouvés avec le Sénégal, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et ils n'ont pas perdu un seul match, ils en ont gagné 3. Ils ont fait match nul contre le Sénégal. Et ça leur a permis donc de se qualifier. Ce que a fait spécialement Nicolas Dupuis, c'est qu'il a tenté de multiplier les rassemblements, les stages, les matchs amicaux. Il en a organisé, par exemple, en région parisienne, contre le Togo ou contre le Kosovo. Et ensuite, il a aussi réussi un mix assez particulier puisqu'il a des joueurs qui viennent d'un petit peu partout. Il a des joueurs qui jouent en France, en Ligue 1, qui sont professionnels, mais aussi en Ligue 2 ou dans des plus petites divisions. Il a aussi des joueurs qui viennent de Belgique, de Bulgarie, mais aussi d'Égypte, d'Algérie, d'Arabie Saoudite, ou encore de Thaïlande, comme le buteur JV Rakutu Arimalal, qui est le buteur contre la Guinée équatoriale. Donc il a réussi particulièrement à faire un mix, et notamment à motiver certains joueurs binationaux qui avant auraient pu choisir la France ou d'autres pays, et notamment certains joueurs qui viennent de La Réunion, et il a réussi à les convaincre de rejoindre cette sélection malgache avec succès. Donc.
Souleymane, vous avez une autre question pour Martin Guez?
Effectivement, la seconde question, c'est de savoir quels sont les objectifs qui sont fixés par la Fédération malgache pour le sélectionneur Nicolas Dupuis à la CAN 2019.
Martin.
Alors déjà, ils ont encore 2 matchs à jouer. Ils vont essayer de terminer premier de leur poule, puisque on le sait, ils vont essayer de terminer devant le Sénégal. Madagascar qui va quand même bénéficier de la réforme, puisque on sait avant, il y avait 16 équipes qualifiées pour la CAN. Maintenant, il y en a 24, donc ils ont bénéficié de cette réforme pour se qualifier. Et leur but, ça va être aussi d'essayer de renforcer ce groupe qui est assez jeune, qui est assez inexpérimenté. Et il l'a dit, Nicolas Dupuis, il va tenter de séduire d'autres joueurs d'origine malgache, comme il y en a dans le championnat de France. On peut penser à l'attaquant de Caen, Ronny Rodelin, mais aussi l'attaquant de Strasbourg, Ludovic Ajorc, ou alors l'ancien gardien de Ligue 1 qui est désormais en Ligue 2, Zachary Boucher. Il va tenter aussi de multiplier ces rassemblements qui ont plutôt bien marché, qui ont réussi à faire naître une cohésion de groupe et à permettre à cette jeune équipe de mieux s'entendre et de réaliser les progrès qu'on a pu constater depuis 2 ans.
Donc la force de l'équipe, c'est le mental.
La force de l'équipe, c'est le mental, mais c'est aussi un groupe très éclectique qui finalement, une fois qu'il est réuni sous le drapeau, arrive à bien jouer ensemble et à des joueurs binationaux qui rejoignent de plus en plus cette équipe puisqu'ils ont réussi à être motivés par Nicolas Dupuis qu'on a reçu la semaine dernière dans Radio Foot International. Et si vous voulez un petit peu creuser ce sujet, on peut le réécouter. Il était l'invité jeudi dernier de Red Foot International.
Merci beaucoup, Martin Guez. Merci, Souleymane. Bonne journée à Bandoulou. On va se quitter dans 10 minutes. On se retrouve pour la deuxième partie d'Appel sur l'actualité. On va parler de la justice en Centrafrique avec la mise en place depuis lundi de la Cour pénale spéciale. À tout de suite sur RFI.